VOA Afrique, les infos. À Washington, Idriss Fall.
En France, ça y est, Emmanuel Macron est le prochain président. Les résultats du second tour de la présidentielle ont été annoncés il y a à peine une heure.
Le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, avec 65,1% des suffrages, qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. Marine Le Pen obtient ce soir, lors de ce second tour, 34,9% des voix.
Et une nouvelle page s'ouvre pour la France, a déclaré le centriste Emmanuel Macron, en souhaitant que ce soit celle de l'espoir et de la confiance retrouvée. Marine Le Pen, la candidate de l'extrême droite, a aussitôt reconnu sa défaite.
Je veux remercier les 11 millions de Français qui m'ont accordé leur voix et leur confiance, ainsi que les militants qui m'ont soutenu et accompagné tout au long de cette campagne. Par ce résultat historique et massif, les Français ont désigné l'Alliance patriote et républicaine comme la première force d'opposition au projet du nouveau président. Les formations politiques qui ont pris la responsabilité de faire élire M. Macron se sont discréditées elles-mêmes et ont perdu toute légitimité à représenter une force d'alternance ou même d'opposition crédible.
Les Français ont fait un choix d'un avenir européen, s'est félicité le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. D'ailleurs, à 19h05, temps universel, c'est-à-dire dans un peu moins de 5 minutes, VOA Afrique vous invite à une édition spéciale sur l'élection présidentielle en France.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Nigeria, plus de 80 lycéennes de Chibok ont été libérées hier et elles sont arrivées dimanche à Abuja pour être reçues par le président Muhammadu Buhari. Selon la présidence nigériane, elles ont été échangées contre des détenus membres de Boko Haram. Ces adolescentes faisaient partie d'un groupe de 276 lycéennes enlevées par Boko Haram depuis la mi-avril 2014. Et en octobre 2016, grâce à l'aide du CICR et de la Suisse, 21 lycéennes avaient déjà retrouvé la liberté. La Mauritanie a signé avec la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest un accord pour la libre circulation des personnes et des biens et la lutte contre le terrorisme. Cet accord permet la circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux entre la Mauritanie et les 15 pays membres de la CEDEAO. Un Français enlevé il y a 6 semaines au Tchad a été libéré au Soudan voisin. Thierry Frézier, un employé d'une compagnie minière, a été transféré à l'ambassade de France à Khartoum. L'ancien otage dit avoir été bien traité par ses ravisseurs. Au Tchad, selon la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme, Maoundé Dekladoré, porte-parole de la plateforme Ça doit changer, a été arrêté vendredi à Moundou, la deuxième ville du pays. En Guinée, au moins 21 personnes ont péri, 12 femmes et 33 blessées dans la collision entre un camion et un minibus près de Dubreka, au nord de Conakry. Les accidents de la route surviennent souvent en Guinée à cause du mauvais état des routes, des véhicules et à l'imprudence des conducteurs. Autre accident, c'est dans le nord de la Tanzanie avec un bus près de Karatu. 32 élèves, 2 enseignants et le chauffeur ont été tués. Selon le chef régional de la police, Charles Mkombo, l'excès de vitesse pourrait être la cause de cette tragédie. Ces élèves, en dernière année d'école primaire, étaient en route pour des examens blancs de sélection pour les études secondaires. Dans le nord du Maroc, des milliers de personnes ont participé hier soir à un concert de casseroles à Al-Hoseima. La réponse de l'État a été la relance d'un ambitieux plan de développement. Le gouverneur de la région a été limogé et les visites interministérielles se succèdent, mais n'ont pas suffi à désamorcer la contestation dans cette région réputée frondeuse depuis la mort en octobre 2016 d'un vendeur de poissons broyé dans une benne à ordures.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
20h. Voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. Marine Le Pen obtient ce soir, lors de ce second tour, 34,9% des voix.
Révisé à 65,5%, c'est donc Emmanuel Macron qui est le nouveau président de la France face à Marine Le Pen, vous l'avez entendu, avec 34,5%. Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale avec moi, Abdourahmane Dia et Anastasie Tudiech.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Et bonsoir tout le monde.
Je veux remercier les 11 millions de Français qui m'ont accordé leur voix et leur confiance, ainsi que les militants qui m'ont soutenu et accompagné tout au long de cette campagne. Par ce résultat historique et massif.
Et vous avez entendu Marine Le Pen qui s'est inclinée dans cette élection présidentielle face à Emmanuel Macron qui devrait prendre la parole d'ici peu à Paris. Les Français ont donc un nouveau président. Nous prenons tout de suite la direction de Paris pour retrouver le correspondant de La Voix de l'Amérique, Luis Ramirez. Luis Ramirez, est-ce que vous êtes avec nous ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir, Luis. Quelle est l'ambiance à Paris ce soir ?
Une ambiance de véritable célébration, expression de soulagement parmi les ceux qui soutiennent Emmanuel Macron. Les gens, il y a des centaines de personnes qui sont maintenant au Palais du Louvre, célébrant. Maintenant, Monsieur Macron commence à parler avec à ceux qui le soutiennent. Il a dit merci pour votre soutien. Il a dit que la France aujourd'hui commence une étape de nouveau espoir. À ce moment, fait quelques déclarations. Je suis en train d'écouter ce qu'il dit.
Alors, on voit à la télévision des scènes de liesse. Comment est-ce que les Français... est-ce qu'on peut parler de soulagement, d'après ce que vous voyez?
J'ai fait interview avec plusieurs de votants aux urnes ce matin et aussi à la fête de célébration. Je viens de là, il y a quelques moments. J'ai l'opportunité de parler avec les votants qui sont d'origine africaine surtout, qui ont parlé de peur que Mme Le Pen a fait parmi la communauté de diaspora africaine avec ses prononciations qu'un votant m'a dit. Elle a causé les divisions en France et ça a fait peur parmi la diaspora. Ils ont célébré, comme j'ai dit, ils ont exprimé un sentiment de soulagement en voir que les sondages ont été corrects, que c'est Emmanuel Macron a gagné l'élection avec 65% du vote.
Alors justement, Emmanuel Macron qui s'exprime en ce moment même, on l'a dit, ses premiers mots étaient pour ses supporters qu'il remercie. Il l'a dit, il a parlé d'une France divisée et qu'il comprend la colère. Alors comment est-ce qu'on explique ces résultats ? Pascal Blanchard, vous êtes avec nous ? Pascal Blanchard, bonsoir. Pascal Blanchard, vous êtes spécialiste de l'histoire des migrations. Bonsoir Pascal, merci d'être avec nous.
Oui.
Alors une élection présidentielle hors norme, qu'est-ce qui a fait la différence d'après vous ?
Le rassemblement contre le Front National, c'est ce qui a permis à Emmanuel Macron de faire un tel score et de rassembler 65% des électeurs. Il est très clair que beaucoup des gens qui ont voté pour lui en son second tour ont d'abord et essentiellement voté aussi contre Marine Le Pen et contre le risque de voir le Front National prendre le pouvoir. Et le score de Marine Le Pen est pour autant extrêmement élevé. 11 millions de personnes ont voté pour elle, ce qui montre bien quand même les fractures à l'échelon de la nation, que l'extrême droite puisse arriver à fédérer dans un pays européen sur un second tour d'une présidentielle autant de voix. C'est un signe aussi alarmant, même si le score d'Emmanuel Macron permet aujourd'hui de respirer et de sentir que la France est sortie du piège que lui avait tendu Marine Le Pen.
Alors Pascal Blanchard, un taux record d'abstention, 25%, c'est beaucoup. Est-ce que Mélenchon qui a refusé, d'endorser un des candidats a eu un effet, on peut le dire ?
Oui, Je pense que pour beaucoup d'électeurs qui avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon, il y a eu la volonté de ne pas aller voter ou de voter blanc ou de s'abstenir. Mais aussi pour beaucoup d'électeurs républicains et socialistes. Je pense que parmi ces 75% de participants, les 25% qui n'ont pas voté ont tenu ce type de message. Mais il faut aussi regarder la chose, c'est que beaucoup de gens ont accepté de voter pour Emmanuel Macron parce qu'ils avaient cette volonté de faire barrage. Beaucoup de blancs aussi, puisqu'il y a presque 9% de bulletins blancs et nuls, ce qui est très important pour une élection présidentielle. On n'avait pas vu cela depuis 1969. Autant de signes qui montrent bien que l'électorat d'Emmanuel Macron est très composite, très divers. Beaucoup de gens ont voté pour lui sans pour autant partager clairement ses propositions ou fondamentalement ne vont pas forcément voter pour lui pour les législatives. C'est donc une élection qu'il faut regarder à l'aune de tous ces paramètres-là pour comprendre que l'élection qui va avoir lieu dans un mois va être extrêmement stratégique. Il est loin d'être simple pour Emmanuel Macron d'avoir une majorité parlementaire qui pourrait soutenir son gouvernement.
Alors en parlant de majorité parlementaire, Vincent Hédin, vous êtes professeur de rhétorique à Sciences Po à Paris aussi. Est-ce que vous êtes avec nous ?
Oui, et bonsoir.
Alors Marine Le Pen, qui a perdu ce soir dans son discours, a parlé tout de suite d'une refonte du Front National. Elle s'est exprimée, elle a annoncé son engagement pour les législatives. Est-ce qu'il faut s'attendre à un score historique, encore une fois, pour le Front National, qui reste premier parti de France quand même ?
Oui. Enfin, moi, je suis complètement d'accord avec tout ce que Pascal Blanchard vient de dire. Je pense que la refonte du parti, ça prouve qu'elle reste une fine politique à défaut d'avoir été une fine débatteuse mercredi. Ce qu'elle se dit, c'est que cette semaine, Emmanuel Macron va annoncer son gouvernement dans lequel il y aura sans doute un certain nombre de prises de guerre du côté du Parti des Républicains et que donc il va y avoir des fractures et donc elle espère, elle, pouvoir aspirer l'aile la plus droitière des Républicains pour élargir son mouvement et avoir un certain nombre de députés en joie, ouais, bien sûr.
Qu'est-ce qu'elle peut changer fondamentalement dans son discours pour élargir encore son électorat aujourd'hui ?
C'est compliqué à vous dire, c'est-à-dire qu'on voit bien que, enfin, encore une fois, comme le disait Pascal, l'opposition au Front National reste très majoritaire en France, plus que l'adhésion à Emmanuel Macron, mais elle a quand même engrangé plus de 3 millions entre les deux tours. Elle a un discours sur l'Europe qui est encore un petit peu tangent, donc il faut qu'elle donne un peu plus de gage économique et puis qu'elle arrive à avoir des propositions plus concrètes plutôt que d'être uniquement en contre. En fait, si on regarde bien l'entre-deux tours, elle ne fait que remonter sur Macron jusqu'au débat où tout d'un coup elle s'effondre. Parce que dans le débat, elle n'était que dans l'invective, mais elle n'avait aucune proposition concrète à apporter. Avec tous les défauts qu'on peut trouver à Donald Trump, il a réussi à trouver un certain écho parce qu'il avait des propositions pour les désespérés américains, des propositions qu'on peut juger saugrenues ou inapplicables, ou etc. Mais au moins des propositions qu'il arrivait à formuler, là où Le Pen est encore peine à trouver des promesses concrètes. Voilà.
Alors, vous suivez l'édition spéciale sur la présidentielle française avec l'élection d'Emmanuel Macron sur VOA Afrique. Avec l'abstention, la surprise et bien sûr la grande gagnante de ces élections scrutées par le monde entier, deux candidats que personne n'aurait imaginé aussi nettement dans la dernière ligne droite. Alors, Anastasie Toudiech, qui sont-ils ?
Commençons avec Emmanuel Macron, atypique par son âge, 39 ans. Jamais président de la République française n'a été élu aussi jeune. L'ancien ministre de l'économie de François Hollande a su se propulser à une marche de l'Élysée alors qu'il était inconnu des électeurs il y a encore 3 ans. Son parcours scolaire aussi est surprenant. Cagnes, Hippocagnes, DEA de philosophie, diplômé de Sciences Po Paris en 2001, puis c'est l'ENA et l'Inspection Générale des Finances, avant de devenir l'un des principaux conseillers de François Hollande. Emmanuel Macron était banquier d'affaires dans la société Rothschild, où il a été l'artisan du rachat de Pfizer par Nestlé, une transaction d'un montant de 9 milliards d'euros. Fils d'un couple de médecins, Emmanuel Macron est marié à Brigitte Trogneux, de 24 ans, son aînée. Elle était enseignante de lycée, Emmanuel Macron était son élève. Le credo du candidat d'En Marche, incarner la ligne social-démocrate, voire social-libérale, à laquelle les sympathisants du PS ont tourné le dos. Parmi ses promesses de campagne, la société du travail, les législatives qui se profilent sont le prochain rendez-vous.
Alors Anastasie, qu'en est-il de Marine Le Pen qui vient de reconnaître sa défaite ?
Alors à moins de 50 ans, Marine Le Pen a réussi là où son père a échoué, réalisant un score historique. Près de 35% son diplôme d'avocate en poche. Après 2 ans d'exercice au barreau de Paris, elle rejoint la cellule juridique du Front National, un poste que son père, Jean-Marie Le Pen, a créé spécialement pour elle. Et dès 2011, Marine Le Pen prend la tête du FN avec un seul objectif, l'Élysée. Elle s'en est rapprochée de très près. Première tentative manquée en 2012. Elle, comme son père, tempête sur l'islamisation rampante de la société et propose la priorité nationale à l'emploi. Entre autres éléments, les Français n'auront pas laissé à Marine Le Pen le loisir d'appliquer ses idées, mais les élections législatives à venir pourraient encore lui donner un certain pouvoir, d'autant qu'elle se présente désormais comme le leader de l'opposition en France.
Merci beaucoup, Anna.
Alors, Pascal Blanchard et Vincent Hédine, vous êtes toujours avec nous. On va parler tout de suite des défis qui attendent Emmanuel Macron, 8e président de la République française. Donc, François Bayrou disait tout à l'heure que c'est le plus jeune président de la 5e République, voire même de la République, depuis l'existence de la République tout court. Dans son discours, il a parlé tout à l'heure d'une France divisée, qu'il comprend la colère. Il a aussi parlé de la lutte contre le terrorisme, que la France resterait au premier rang de cet engagement. Il a parlé d'éducation, de chômage, de culture. Vous avez entendu, messieurs, un petit peu son discours? Vous avez eu le temps? Pascal Blanchard?
De notre discussion. Et ce qui est marquant dans son discours, c'est qu'il est parti sur une piste de rassemblement. C'est le mot qu'il met en amont. Ne pas oublier les priorités, à la fois économiques et aussi sociétales, et les situations de crise que la société française connaît. Donc il est en train poser un discours qui va quelque part correspondre au gouvernement qu'il va proposer. C'est-à-dire qu'il va chercher cette logique de montrer que son gouvernement est assez large, assez ouvert à toutes les sensibilités, justement parce que c'est d'abord un gouvernement qui doit renvoyer le message de son élection, mais aussi c'est un gouvernement qui doit préparer les législatives. Il sait très bien que les partis classiques qui se sont effondrés dans cette présidentielle sont sur le territoire, notamment en région, toujours extrêmement puissant par rapport à des députés sortants. Il sait donc qu'il doit donner un signe très fort d'une unité, d'une ouverture d'esprit, de gens à la fois compétents mais neufs aussi dans le mouvement pour donner un sentiment, comme avec ses députés, qu'il va y avoir un renouvellement tout en rassurant les électeurs, car il part dans une aventure qui va être beaucoup plus complexe, car il n'y a pas 577 Emmanuel Macron qui se présente aux législatives, mais bien 577 candidats qui vont devoir porter ses idées dans quelques semaines.
Vincent Hédin.
Il joue l'unité nationale, c'est-à-dire que là, si vous allez sur le site du Parti Socialiste aujourd'hui, vous verrez qu'ils ont abandonné tous les thèmes de campagne de François Hollande, de Benoît Hamon pour rejoindre celui d'Emmanuel Macron. On ne parle plus de revenu universel, de préférence écologique ou autre, pour aller beaucoup plus vers une démarche en marche compatible. Désormais, il lui reste à convaincre un certain nombre d'électeurs de droite, parce que là, pour Macron, paradoxalement, le plus dur commence. C'est pour ça que son discours sort très en retenue, contrairement à il y a 2 semaines. Parce que ce serait très pour lui. L'idée que tout ce chemin de conquête s'arrête dans un mois, parce que si la droite remporte les législatives et que François Baroin se retrouve au Premier ministre, il aura fait tout ça, peut-être pas pour rien, mais enfin, en tout cas pour pas grand-chose. Donc là, maintenant, lui, il doit rester éminemment concentré et la jouer profil bas avec l'Union nationale pour essayer d'avoir une chambre. Les premières projections ont donné une légère majorité à En Marche, mais avec à peine 200 députés, comme Pascal le rappelait très bien. Il n'y a pas 577 Emmanuel Macron, et ça va, chez chaque député, ça va être une conquête. Donc ce soir, c'est pour ça qu'il fait profil bas, et aussi parce qu'il se rappelle des soirées, il a tiré les leçons du 23 avril, où il a eu un discours un peu prétentieux et un peu ramenard. Donc là, ce soir, profil bas avant tout.
Effectivement, rendez-vous. Allez-y, un dernier mot.
Oui. D'ailleurs, ça va être très compliqué avec le Parti Socialiste d'une part, puisqu'il n'y aura pas une double étiquette, donc il va y avoir un vrai débat, savoir si faut-il des candidats face aux candidats socialistes installés. Et de l'autre côté, les Républicains vont avoir un énorme débat en interne, c'est face aux candidats UDI qui avaient des circonscriptions qui leur étaient réservées. Quelle va être la stratégie des Républicains là-dessus? Ça va être extrêmement politique cette semaine.
Effectivement, il va y avoir
aussi les négociations.
Il va y avoir, ça va être une semaine de négociations et puis on va surveiller bien évidemment les législatives. Merci messieurs d'avoir été avec nous. On va déjà prendre la direction de l'Afrique tout de suite.
Alors nous allons à Abidjan retrouver Arnaud Floris. Arnaud, bonsoir. Vous m'entendez, Arnaud? Oui. Alors,
Je vous entends bien. Vous m'entendez?
D'accord, je vous entends très bien. Vous êtes le représentant du mouvement En Marche à Abidjan. Alors, votre candidat a gagné. Félicitations d'abord.
Et... Merci beaucoup.
Et comment est-ce que vous voyez justement la politique africaine du futur président français Emmanuel Macron?
Écoutez, c'est une de nos missions. Hein. Nous œuvrons pour rénover les relations entre la France et l'Afrique. On a eu l'occasion de présenter cette politique à maintes reprises à Abidjan. Elle s'articule autour de trois axes. Le premier étant l'établissement de nouveaux partenariats stratégiques entre l'Union européenne, l'Union africaine, en s'appuyant sur toutes les organisations régionales de type CEAO, hein, qui a fait un très bon travail en matière de résolution des conflits, on l'a vu récemment. Également, tous ces programmes de renforcement des capacités de la société civile, donc s'appuyer sur la société civile africaine dans toute sa transversalité, des syndicats aux fondations, et également accentuer la promotion de la francophonie. Donc ce sont les trois axes de notre politique africaine.
Je ne sais pas si vous avez fait le tour d'Abidjan depuis l'annonce des résultats. Quelle est un peu l'atmosphère? Est-ce qu'on sent un soulagement? Comment est-ce que vous sentez l'ambiance à Abidjan après l'annonce des résultats?
Mais écoutez, pour tout vous dire, j'arrive à peine au consulat, parce qu'en tant que délégué donc national, je vais assister au comptage des voix. Donc j'espère que nous aurons un score plus important que le score national. En Côte d'Ivoire, donc en tout cas nous avons sensibilisé un grand nombre de nos concitoyens depuis maintenant plus de 6 mois à Abidjan, et donc on espère de tout cœur que ce score sera important. On a un véritable engouement. Il faut savoir que Marine Le Pen a fait 7% ici au premier tour. Nous sommes arrivés en deuxième position derrière François Fillon avec un score de 27%, ce qui est quand même un très bon score compte tenu des spécificités de la Côte d'Ivoire. Hein. C'est traditionnellement ancré très à droite. C'est Nicolas Sarkozy en 2012 avait fait un score de 60% qui était son deuxième plus gros score mondial. Donc arriver après François Fillon avec 27%, c'est plutôt une belle performance. Et donc on espère ce soir que ça se traduise massivement.
Apparemment, nous avons perdu Arnaud Floris à Abidjan, mais ça ne va pas nous empêcher de continuer. On va parler de la lutte contre le terrorisme, qui est un des piliers de l'engagement militaire français en Afrique. Le Mali en fait partie. C'est un parfait exemple avec l'opération Serval en 2013, qui a permis de stopper l'avancée des djihadistes. On écoute, et puis on écoute...
Madou Diallo.
Madou Diallo, qui va nous parler, qui va revenir aussi sur l'opération Barkhane, qui s'étend dans la région. Il a été interviewé par vous, Abdourahmane Dia.
Vous savez, ce qui peut changer pour l'Afrique, c'est que c'est quelqu'un quand même qui est beaucoup plus pragmatique. Donc il faudrait s'attendre à ce que tout ce qui est échange sur le plan économique soit vraiment renforcé, c'est-à-dire l'établissement d'un partenariat ambitieux, certainement avec l'Afrique, et également les renforcements des échanges concernant la circulation des chercheurs, des entrepreneurs, l'avenir de la francophonie. Mais ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est qu'il va veiller aussi aux intérêts de la France et aux intérêts stratégiques. N'oublions pas quand même que la France compte 300 000 ressortissants en Afrique et 10% de la population française est d'origine africaine. Donc il y a aussi des sujets comme l'immigration clandestine qui vont aussi certainement retenir son attention.
Sur le plan militaire, justement, l'opération Serval puis Barkhane ont quelque peu symbolisé l'intervention militaire française en Afrique. Emmanuel Macron à l'Élysée, ça va changer quoi selon vous?
Oui, je pense que dans un premier temps, Macron va certainement s'inscrire dans la même ligne que François Hollande, parce qu'il a déjà quand même salué l'intervention de la France sous l'égide de Hollande, la présence militaire française. Mais je pense aussi que Macron a bien compris que la présence militaire française ne doit pas, sur le long terme, se substituer aux États africains. Donc, à ce niveau, il faudrait aussi s'attendre à ce que la coopération sécuritaire, la coopération en matière de lutte contre le terrorisme soit réellement renforcée entre la France et les pays africains.
Et comment les Maliens verraient un centriste, disons, comme président français, quand on sait que la gauche et la droite n'ont pas vraiment une grande différence en ce qui concerne la politique africaine française.
Vous savez, ce qui va surtout marquer l'esprit des Maliens, ça va être surtout une question. Les Maliens vont se poser la question, est-ce que Macron va aider plus que les autres présidents africains, le Mali, à sortir de cette situation. Moi, je pense quand même qu'il est, il est beaucoup plus mieux placé pour comprendre certaines choses, parce que déjà, c'est un président qui est jeune, qui est charismatique, mais ceci, c'est un président, pour le moment, qui n'est pas prisonnier de l'appareil politique.
Alors, c'était Madou Diallo, analyste politique malien, que nous avons joint un peu plus tôt à Bamako. Nous avons en direct de Niamey Abdulrazak Idrissa, notre correspondant à Niamey, la capitale du Niger. Abdulrazak, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, le Niger, un autre pays touché par le terrorisme et où la France est très présente. Comment est-ce que vous avez senti la réaction à Niamey après l'annonce des résultats?
Oui, en effet, nous avons interrogé quelques temps juste après l'annonce de ce résultat, de cette victoire donc d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Et le sentiment général qui s'est dégagé, c'est plus ou moins un sentiment de satisfaction. En tout cas, beaucoup de citoyens que nous avons interrogés ont salué cette victoire d'Emmanuel Macron. C'était plutôt Marine Le Pen qui devait être élue. Donc les Nigériens, dans l'ensemble en tout cas, pour ceux que nous avons interrogés il y a quelques instants, ont salué cette victoire d'Emmanuel Macron et ils espèrent dans leur grande majorité qu'Emmanuel Macron va être le président, ce président français qui va, ils le disent eux-mêmes, c'est vrai, défendre d'abord les intérêts de la France, puisque c'est le discours des responsables français, nous ont-ils dit, la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Ils espèrent donc qu'il va défendre les intérêts français, mais surtout qu'il va tenir en compte de ce continent africain et surtout de ses anciennes colonies telles que le Niger et le Niger, comme le Mali, vous l'avez dit aussi, qui est sous les menaces des groupes terroristes.
Merci Abdulrazak. Anastasie Tudiesh, Abdourahman Dia, comment est-ce que vous observez ce résultat d'Emmanuel Macron pour le continent? Quelles vont être les relations, les gros défis majeurs qui l'attendent sur le continent notamment?
Alors pour ce qui est du continent, c'est difficile à savoir. Hein, quand on interroge nos auditeurs sur... on a fait un call-in, hein, une émission interactive sur la question, et tous étaient assez unanimes pour dire qu'au fond, pour eux, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Est-ce qu'Emmanuel Macron, dont l'avènement crée une véritable révolution en France, par son âge, par son profil, par ce qu'il propose, par son positionnement à la fois de droite et de gauche, c'est lui-même qui le dit, est-ce que cette révolution française, dans l'Hexagone, est-ce qu'il l'exportera aussi dans les relations avec le continent? C'est à espérer, mais est-ce que c'est ce qui va arriver? Il faut voir.
Alors, un profil atypique, hein, n'est-ce pas, même pour le continent, est-ce que, par exemple, il s'était prononcé sur le franc CFA, est-ce que ça va être le président français qui va impulser quelque chose sur le franc CFA, Abdourahman?
Il s'était prononcé sur le franc CFA, mais c'était la réponse classique des hommes politiques français, c'était que, la décision finale revient aux dirigeants africains. Mais je pense que, oui, Anna l'a dit, au niveau de l'opinion publique, il ne voit pas tellement une grande différence, hein, mais je pense que l'élite politique africaine va être soulagée ce soir, sachant que Marine Le Pen ne sera pas à l'Élysée.
J'espère qu'elle ne le sera pas trop, Abdou, parce que vraiment, pas de blanc-seing.
Je suis d'accord, mais je pense que quand même, il représente un profil qui ne fait pas peur. Et avec qui a un discours pro-africain, si on peut le dire d'une certaine manière.
Alors un profil qui fait pas peur, en tout cas il fait pas peur à Donald Trump, qui a déjà félicité dans un tweet dont est féru le président américain, il félicite donc Emmanuel Macron sur un score énorme, dit-il, et qu'il est déjà prêt à travailler avec Emmanuel Macron. On verra comment toutes ces relations internationales vont se mettre en place. On se souvient que juste avant l'élection, l'ancien président Barack Obama
a soutenu Emmanuel Macron.
En marche.
Et son mouvement En Marche.
Ce qui est très rare aussi.
Et en tout cas, il donne une image très moderne de la France. Et ça ne peut que jouer en faveur du pays.
Tatiana Mosso,
Anastasie Tudiech
et Abdourahmane Dia.
Pour cette édition spéciale sur les élections françaises, merci d'avoir suivi ce numéro spécial. Merci à Michel Joseph, à Idriss Fall d'avoir été avec nous. Restez sur VOA Afrique pour continuer de suivre l'actualité internationale et partout dans le monde. Bonne soirée et bonne journée à vous.